Nous sommes une colossale société d'alcooliques sociaux.
L'alcool a le pouvoir de faire taire ce qui te rend malade, te casse, te fait te sentir misérable. Et aussi de te mener à des situations auxquelles tu ne te serais pas exposé autrement.
Nulle part ailleurs, on ne boit autant d'alcool qu'en Europe. Et chaque gorgée augmente le risque de tomber malade. Mais les jeunes en particulier renoncent de plus en plus souvent à l'alcool. Et les boissons sans alcool n'ont jamais été aussi demandées.
Notre génération est certainement plus réfléchie, ce qui soulève inévitablement des questions comme « Quelle est mon attitude vis-à-vis de l'alcool ? Est-ce qu'il est bon pour moi ou pas bon pour moi ?»
La jeune génération, qui boit moins, a dû voir la montagne de vomi de l'Oktoberfest. Et quand on a connu ça, je comprends qu'on se dise « Ah non merci, sans façon ».
Il vaut mieux rester sobre ? L'alcool reste pourtant une drogue socialement acceptable, indispensable à toute réunion réussie.
Est-ce qu'on ne peut pas révoquer en doute nos façons de faire société, nos façons de faire, de créer de la convivialité ?
Je pense que l'alcool est une aide qui est censée gérer toutes sortes d'émotions. À l'origine, en nous, il y a un trou. Et lorsqu'on y verse de l'alcool, ce trou ne fait que s'agrandir.
Disastar est rappeur, originaire de Hambourg. Il porte un regard sans concession sur l'actualité politique. Son nouvel album, plus personnel que les autres, Hamburger Aufstand, l'insurrection de Hambourg, vient de sortir, avec des textes contre les inégalités sociales, la montée de l'extrême droite, les violences policières et le retour du service militaire obligatoire. Großraumbüro unter Neonlicht. Sie sitzen in Palästen und dann reden sie von Wehrpflicht. Nichts ist hier sicher, aber ein paar Dinge stehen fest. Würden nie sterben für ein Land, das uns so leben lässt.
Je ne m'assieds pas au studio en me disant que je dois traiter ces thèmes. Ce sont des thèmes qui me préoccupent. Masochiste comme je suis, je regarde des émissions de talk-show politiques. On y trouve beaucoup d'inspiration. Sans parler de tout ce qu'on trouve en se promenant, les yeux et l'esprit ouverts dans une ville comme Hambourg. J'écris des chansons sur ce qui me touche, en donnant mon point de vue. Sur les thèmes politiques, par exemple.
Nous le rencontrons en tournée. Dernière balance son avant le concert de ce soir à Münster. Disastar grandit dans la banlieue de Hambourg. Son vrai nom est Gerrit Fallius. La vie familiale, qui semblait stable, vole en éclats lorsque son père fait faillite et se réfugie dans l'alcool.
Aussi loin que je me souvienne, je suis en contact avec l'alcool. Ça m'a toujours été présenté comme une stratégie valable pour surmonter des difficultés d'adaptation. La première fois que j'ai consciemment bu, c'était vers 13 ans, alors que je traînais avec quelques jeunes plus âgés de mon quartier. Nous éprouvions tous, d'une manière ou d'une autre, une certaine souffrance due à notre contexte familial. Et nous avons rapidement compris que l'alcool était un moyen de relâcher un peu la pression. Et c'est rapidement devenu quelque chose qui comptait. Je me souviens, à 14 ans, j'ai passé 6 semaines de vacances d'été à Hambourg et j'ai bu tous les jours, pendant 6 semaines.
D'autres drogues succèdent à l'alcool, puis l'exclusion scolaire, les infractions pénales. À 15 ans, Gerrit est soustrait à sa famille par les services sociaux. L'alcool engourdit et apporte un soutien dans le chaos. Du moins, il le pensait à l'époque.
Comme on ne sait pas gérer la douleur, alors on boit. On ne sait pas ressentir la joie, alors on boit. Il s'agit toujours de réguler ses émotions. Et tant qu'on essaie de compenser, aucun processus de guérison ne peut s'enclencher. Les pires choses que j'ai vécues dans ma vie étaient presque toutes liées à l'alcool. Je pense que l'alcool fait ressortir le pire chez les gens. Et qu'on n'en parle presque jamais. Et qu'il y a beaucoup de gens pour qui une vie sans alcool est impossible.
Disastar veut s'en éloigner. À la fin de la vingtaine, il réorganise sa vie. Il a rattrapé son baccalauréat et parallèlement à sa carrière musicale, il suit une formation de menuisier. Il est devenu père. Aujourd'hui, à 31 ans, il est sobre. Il s'est battu pour sortir de sa dépendance.
Pendant des années, j'ai toujours bu au studio. J'ai fait de la musique en état d'ébriété. Mais je suis bien meilleur quand je ne suis pas ivre. Je pense que là, j'ai réalisé le meilleur album que j'ai jamais fait complètement sobre. On a une vision plus réaliste de soi. Ivre, tu es peut-être plus vite satisfait. Mais quand j'arrive à garder la rigueur que j'ai quand je fais de la musique, je peux aller encore plus loin.
Son album Hamburger Aufstand, l'insurrection de Hambourg, parle des dépendances destructrices, mais aussi de la force immense qu'il faut pour s'en libérer.
Au début, je ressentais régulièrement une envie irrépressible. Ces envies sont devenues de plus en plus rares. Ça fait maintenant un an que je n'ai plus ressenti cette envie une seule fois. C'est plutôt le contraire. Je me réveille en sueur la nuit parce que j'ai rêvé que je buvais. Et je me sens extrêmement heureux et soulagé que ce ne soit qu'un rêve.
Disaster est sur la grande scène. Dans un endroit comme celui-ci, où l'alcool coule à flot, il reste sobre. Comment se passe la vie en tournée sans ivresse, sans alcool ?
Ce moment avant les concerts sur scène a toujours été sacré pour moi. Avec l'alcool, j'aurais eu encore plus peur. Je n'aurais plus rien maîtrisé. Bien sûr, je me suis souvent saoulé après les concerts, mais j'ai arrêté à partir de 2017. C'est difficile de tenir le coup toute une tournée comme ça. Si tu te saoules tous les soirs, tu te réveilles avec la gueule de bois et la haine de toi-même. Puis tu tombes malade et ta voix est foutue. Heureusement, mon équipe est comme moi, donc on ne boit pratiquement pas ici.
Mais est-il seul dans ce cas ? Ou appartient-il à une génération plus critique vis-à-vis de l'alcool ?
C'est sûr que notre génération est plus encline à l'introspection. D'où des questions genre, quelle est ma relation avec l'alcool ? C'est bon pour moi ou pas ? On réfléchit plus à soi-même. Ça a aussi à voir avec l'amour propre. Ne pas se saboter, supporter ses sentiments et se discipliner. Pour moi, ça n'a rien d'un renoncement. C'est quand je buvais encore que je renonçais, et quand je prenais des drogues. Je renonçais à une bonne vie et à prendre soin de moi. C'est un processus, et je ne prétends pas que c'est fini.
Ceux qui veulent se sauver de la noyade essaient de nager jusqu'au rivage pour être en sécurité, d'atteindre une île, un endroit sûr. Pour nous, à l'hiver 2002, c'est exactement l'inverse. On survit grâce au liquide. On parle d'alcoolique fonctionnel. Ça pourrait s'appliquer à moi. Ça veut dire que les alcooliques ne fonctionnent pas, mais que c'est pour arriver à fonctionner que nous buvons.
Christine Koschmider, auteure, femme de théâtre, mère de trois enfants. Elle vit près de Dessau, en Saxe. C'est l'une des premières qui a réussi à écrire sur sa vie avec et sans l'alcool, en brisant ce tabou, montrer qu'une femme aussi cultivée qu'elle peut sombrer dans l'addiction.
J'ai passé ma vie à me demander, est-ce que je bois autant parce que je suis dans le théâtre ? Ou parce qu'on fait ça quand on est étudiant ? Ou est-ce que je bois autant parce que mon mari est mort et que je suis une espèce de veuve? Ou est-ce que c'en est arrivé au point où c'est pathologique, où c'est une addiction?
Il y a 5 ans, elle a ouvert le parachute. Elle s'est faite hospitaliser dans un service d'addictologie et elle a écrit Dry, un roman autobiographique où elle raconte l'histoire de sa vie, entre l'obligation de réussir, l'alcool et la perte.
Je commence avec la mort de mon mari, parce que les problèmes qu'on peut avoir dans la vie sont souvent considérés comme des déclencheurs de l'alcoolisme. Mais c'est débile. On cherche tous des raisons pour expliquer pourquoi nous buvons, mais on ne boit pas à cause de quelque chose, on boit parce qu'on est accro. Les gens disent « je suis tombé dedans parce que ». Ce sont des stratégies de justification. Ça faisait longtemps que j'utilisais l'alcool, pour me mettre dans certains états.
Elle apprend ce qu'est le poids de l'alcool dans la famille. Ses parents étaient universitaires et alcooliques. Sa mère restera une étrangère pour elle toute sa vie. Le foyer familial et son rôle protecteur, une illusion. Après le divorce de ses parents, elle grandit avec son père. Elle part pour Leipzig. Elle étudie le théâtre. Et mène une vie très libre. D'une famille où on boit, elle se retrouve dans un milieu, celui du théâtre, où on boit aussi.
On avait 20 ans, on ne pensait pas à une carrière, on faisait du théâtre. J'étais une théâtreuse, ce qui comptait, c'était juste l'intensité, la proximité avec les gens, et ça, je l'ai eu.
Elle plonge dans la vie, elle devient mère, d'abord mère célibataire, puis elle rencontre celui qui sera le père de son second enfant, l'amour de sa vie. Mais peu après, on lui diagnostique un cancer.
Le frigidaire, qui depuis quelques semaines se dressait comme une île entre la porte de la cuisine et celle de la salle de bain, en encombrant le passage des voitures de poupées et des caisses de bouteilles, s'était mis à emmagasiner des poches de nutriments. Parce qu'on peut encore manger, mais ça n'apporte pas assez de calories. On perd du poids trop vite.
Quand son mari meurt, elle vient d'avoir la trentaine. Reste un deuil non surmonté et l'alcool qui lui promet le réconfort. Extérieurement, elle fonctionne, mais intérieurement, elle se désagrège lentement.
Tous ces témoignages d'admiration. Mais comment fais-tu pour gérer tout ça? Veuve, travailleuse indépendante, 3 enfants. Intérieurement, je leur faisais un doigt. Et je pensais, si vous saviez à quel point je n'arrive pas du tout à gérer tout ça, c'est l'alcool qui me permettait de refouler, de voiler mes émotions, de les faire taire. Je les noyais dans la boisson. Je ne buvais pas la journée parce qu'il fallait d'abord que je fasse tout le reste. Je commençais à écrire quand les enfants étaient au lit, et là je buvais, pour écrire. Bien sûr, on va me dire, mais tu en avais besoin parce que tu es une créatrice, une artiste, n'importe quoi, ça n'a aucun sens. L'alcool vous désinhibe et vous donne plus de confiance pour vous mettre à écrire. Mais ce serait une vision terrible si on se disait qu'on ne peut pas écrire sans alcool. Parce que là, c'est l'alcool qui aurait écrit mes livres et pas moi.
Son roman, Dry, rejoint une tendance actuelle. Spécialement chez les jeunes de moins de 25 ans en Allemagne, on boit beaucoup moins d'alcool que les générations précédentes. On est sober curious.
Maintenant que tout ça est plus visible sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a bien un intérêt pour la sobriété, une sober curiosity. Ce mouvement qui dit que nous ne voulons pas nous embrumer la tête, mais plutôt accepter de nous exposer à la vie. Ça va aussi avec le self-care. On retombe dans l'amélioration de soi-même, etc. Mais ce qui n'est pas trop pris en compte dans cette problématique et dans ce mouvement, c'est qu'il y a un monde entre cette abstinence volontaire et le domaine de la maladie, de l'addiction.
Pour elle, la sobriété est une question essentielle. Est-ce que les femmes, prises entre leur famille et leur carrière, boivent trop sous l'effet du stress? Cette consommation à risque semble augmenter chez certaines.
On a constaté, au moins au niveau statistique, pour l'Allemagne, que le niveau de l'alcoolisme n'augmente pas de façon significative. Sauf pour un groupe en particulier, depuis 10 ou 20 ans, il s'agit des femmes de 30 à 50 ans, instruites, souvent avec un diplôme universitaire, des femmes qui ont réussi leur carrière.
«
Le problème, ou ce qui est si terrible dans l'alcool, ce n'est pas le produit lui-même, c'est ce qu'il nous fait. On va y chercher un sentiment dont l'humanité manque terriblement. Un sentiment de communauté, une extase, un lâcher-prise, un engagement envers les autres. Toutes ces choses, ce n'est pas qu'elles sont uniquement possibles ou atteignables par la consommation d'alcool, mais elles sont plus faciles à atteindre si on boit. Je sais ce qu'est l'ivresse, ce que c'est que danser, lâcher prise et faire des bêtises. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas appris tout ça, ou l'ont oublié, ou s'en sont détachés, et ils n'y arrivent plus sans avoir recours à l'alcool.
C'est qu'il y a peut-être, une déconstruction à opérer. Est-ce qu'on ne peut pas révoquer en doute nos façons de faire société ? Nos façons de créer de la convivialité. Je crois qu'il y a autant d'expressions, d'arômes, de saveurs qu'il y a d'individus pour pouvoir les recevoir. Je crois qu'il y a assez peu de choses qui sont autant intimes que notre rapport au goût, notre rapport à ce qui passe par la bouche.
C'est au cœur de Paris qu'il trouve ses ingrédients. Il est expert en saveurs pour les boissons les plus raffinées.
Je me prénomme Benoît, j'ai 44 ans et je suis sommelier.
Benoît Donofrio est le premier sommelier au monde. Il a inventé le nom et l'a fait breveter. Un sommelier sobre au pays du vin ? Ce qu'il sert est généralement sans alcool.
On continue à nous apprendre que l'alcool est le pilier de façon de créer de la convivialité, de faire société.
Mais comment se comporter quand on se retrouve entre amis et que l'on n'a pas envie de boire d'alcool ? Il faut presque toujours se justifier. Et souvent, on finit par en boire quand même.
Enfin, ces boissons ont des points d'ancrage culturels. Tandis que vous avez envie d'y renoncer, mais que vous savez que ce qui sera proposé en alternative, c'est quelque chose qui va vous rabaisser socialement, intellectuellement, qui ne sera pas à votre hauteur.
Il a baptisé ses boissons « sobrevage » et il touche un point sensible. Benoît Donofrio fait partie d'un mouvement qui souhaite savourer des moments exceptionnels sans avoir la gueule de bois le lendemain matin. S'ils doivent ou non boire de l'alcool, il ne veut pas le décider pour ses clients. Mais il souhaite leur proposer une alternative exquise. Il officie actuellement à Paris, dans le Marais.
Je crois que ce qui interpelle peut-être les gens, c'est le rapport que j'entretiens à la sobriété. Je prône pas le clivage, je cherche à faire des boissons qui rassemblent et qui signent aussi des expériences inédites.
C'était presque comme un dessert, on sentait vraiment la fraise, une petite gariguette, et le piment arrivait en fin de bouche, c'était très frais.
Il y a vraiment, on a l'impression de boire vraiment du vin, mais c'est pas du vin, c'est super intéressant en tout.
D'avoir des boissons maintenant qui proposent des associations assez différentes, des boissons un peu, on va dire, ennuyantes, genre type sirop, jus de fruits, ça permet justement de varier les plaisirs et d'aller sur des boissons totalement honorables et qui changent et qu'on n'a pas honte de servir à ses amis.
Pour cela, notre sobrelier suit une philosophie limpide.
Je n'ajoute à rien d'autre que les matières premières qui sont les éléments phares d'une cuvée de ce breuvage. Il n'y aura jamais de sucre ajouté, quel qu'il soit.
Benoît Donofrio travaille exclusivement avec des ingrédients non traités et utilise uniquement les micro-organismes naturellement présents sur les fruits et les plantes pour la fermentation. Aujourd'hui, il prépare du kiwi, du kaki et de la feuille de figuier torréfiée. Il les accueillit le matin même.
me semble que c'est très important, le côté expérientiel dans l'alimentation. Dans notre rapport à la nourriture, à la boisson, le fait de découvrir est important.
Pour commencer, tout est fait à la main. Ensuite, on ne touche plus à rien. C'est le moment de la fermentation. Les sobreuvages se développent au cours d'un processus de maturation qui dure plusieurs mois. Ils ne sont pas comme les imitations habituelles de boissons alcoolisées.
Avec une bière sans alcool ou un vin désalcoolisé, on découvre rien. On découvre le fait qu'on peut avoir un produit qui a vaguement le goût du vin et qui ne nous enivre pas. Est-ce que c'est une découverte intéressante? Je sais pas.
Benoît Donofrio a affiné son sens du goût dans la gastronomie de pointe à Paris en tant que sommelier. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il voulait et devait lui aussi se libérer de l'alcool. Il est abstinent depuis 3 ans. Aujourd'hui, il va livrer lui-même la cave du Daron dans le 11e arrondissement, où par ailleurs on ne trouve que des boissons alcoolisées sur les étagères.
Salut Fred.
Oh, salut Benoît.
Ça va ? Comment vas-tu ?
Et toi ?
Ça va ? Très très bien.
Cool.
Benoît a un passif dans la sommellerie. Et du coup, sa connaissance du milieu du vin se retrouve dans ce qu'il produit en sans alcool. On a vraiment des produits avec de la complexité et une âme qui font que, voilà, je me suis forcément positionné dessus.
Nous pourrions faire bouger les choses, estime le sobrelier, dans la manière dont nous créons en tant que société, à travers les boissons, un sentiment de communauté. Il a publié ses recettes. Le livre s'intitule « Sobrelier ». Guide pour faire du jamais bu.
Je pense que les sobreuvages, si la machine est lancée et qu'au prochain mariage auquel nous sommes invités, les hôtes nous servent à la place du champagne une autre boisson, on sera forcément surpris au départ. Mais peut-être qu'au fil de la soirée, on commencera à envisager une boisson qu'on n'avait jamais envisagée comme étant une boisson de mariage. Et je crois que tout ça, ça relève vraiment d'un engagement collectif à vouloir faire changer les choses.
Il n'y a pas de culture de la boisson. Pour moi, il y a la séduction et l'aveuglement. On se laisse aller et on se perd là-dedans.
C'est une figure emblématique de Cologne. Il est musicien et auteur-compositeur. Il fait danser sa musique avec ses mots.
Je pense que j'écris des chansons très impopulaires. Et je pense que ces chansons doivent, devraient et veulent transmettre ce message. J'en ai rien à foutre.
Martin Bechler est le leader du groupe indie pop Fortuna Ehrenfeld. « Tout ce qui dépote est agréable », chantait-il autrefois. Des balades en pyjama et boa en plume.
La musique est, doit et devrait être un refuge pour tous les états d'âme. La tristesse, la colère, l'agressivité, le dadaïsme, le gaga, le ridicule, la sincérité, l'aveu, la culpabilité. Je peux mettre tout ce que je veux dans ce pot pourri. Quelque part, pour moi, c'est la soupape idéale pour évacuer tous mes chagrins et toutes mes joies.
Embellir la vie en buvant? Pour Bechler, ce n'est pas une option. Les répétitions avec le groupe sont pour lui comme une réunion en famille. Depuis 10 ans, il compose des chansons hédonistes et réfléchies, accompagnées de Jenny Thiel et Yannis Knupfer. L'alcool, il a longtemps fait partie de la vie de l'auteur-compositeur Bechler.
Je n'ai aucun problème à reconnaître que j'ai déjà bu de l'alcool en quantité. Mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait aux autres. Même quand j'étais jeune, je m'occupais de ceux qui, selon moi, avaient franchi une ligne rouge. Et bien sûr, le fait d'avoir moi-même déjà senti ce danger, ça m'a aidé. Pour l'alcool sur scène, il n'y avait pas vraiment de limite. Avant, on avait toujours un litron de rouge quelque part. Je trouvais ça marrant. Mais aujourd'hui, à la place, il y a un gobelet en carton. C'est plus juste. Je trouve que ça correspond mieux à mon niveau d'éducation émotionnelle.
Il y a quelques années, Martin Bechler a produit son propre vin avec un vigneron et a écrit Cork, une ode burlesque en forme de roman en hommage au vin. Aujourd'hui, il recherche l'équilibre.
Je viens de la région du Bergisches Land, où l'on est constamment encouragé à picoler. Alors on continue jusqu'à ce qu'on soit assez mûr et assez solide, intellectuellement et émotionnellement, pour prendre ses responsabilités. Imagine, quelqu'un souffre d'un terrible chagrin d'amour. Pour lui, il n'y a pas de limite dans l'excès. C'est un sédatif, un médicament. Et il en connaît les conséquences. Et la douleur disparaît, au moins un certain temps. Chacun doit décider pour lui-même. Est-ce intelligent de faire disparaître la douleur pendant un certain temps? Avant, j'aurais dit oui, maintenant non. Pour moi, écrire des chansons n'exige pas une énorme concentration, mais plutôt de la légèreté dans la concentration. Et cela n'est pas possible avec de l'alcool, et encore moins avec quoi que ce soit d'autre.
Depuis plusieurs mois, il a renoncé à l'alcool, à quelques rares exceptions près. Déclaration d'amour à la créativité.
Bella, sing mir was vom Leben. So viele andere bleiben stumm.
Tu dis que j'utilise des images fortes, mais j'ai l'immense chance que ces images soient totalement normales pour moi, dans mon imaginaire, dans mes jeux, dans mes rêves éveillés. Mes déclarations d'amour vont à la vie, vont à l'échec. Une chanson mélancolique. Ce morceau, c'est ça. 3 minutes, un créneau parfait. Nous avons tous le droit et le devoir d'être mélancoliques. Parce que sinon, où mettre toute cette morve? Et rien que pour ça, c'est un très bon pansement.
Bechler peut parfois donner l'impression d'être un clown mélancolique. Mais à chaque concert, il porte son message. Vigilance et prise de conscience accrue.
Ce que j'ai décidé pour moi-même, je ne peux pas le décider pour le reste du pays, ni pour l'Europe ou le monde entier. Mais j'en suis arrivé à un point où personnellement, je veux décider de ma vie. Cela signifie que je veux prendre une décision consciente. Ou bien je me fais du mal maintenant parce que je veux précisément boire ce vin avec mon rôti végétalien, ou bien je ne me fais pas de mal et je ne le bois pas. Dans la vie que j'avais choisie, ma motivation, jeune homme, était de mener à toute vitesse une vie passionnante. Aujourd'hui, c'est plus nuancé. Je ne ressens aucun manque, je ne m'interdis rien. J'ai changé de perspective. L'alcool exerce une fonction dans notre société. Nous sommes une colossale société d'alcooliques sociaux, ok. On a le droit de décider soi-même. Je ne dis pas que ce que je faisais à l'époque était mal.
Der ist bislang noch ungeklärt. Es ist ein kalkuliertes Risiko, dass ich unter Menschen bin.
Et l'ivresse désormais, il la vit autrement.
La plus grande ivresse, c'est la musique. Quand j'ai attrapé un texte par la peau du cou, je me dis que ça va marcher et je ressens une montée d'adrénaline. Et aussi, l'ivresse, c'est quand je peux interpréter des chansons sur scène avec mes estimés confrères ou consoeurs ou les graver sur un disque.